c'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour mon émission hebdomadaire Alice et vous. Le moment que nous avons partagé ce jour va vous permettre de comprendre l'intérêt et ce qui se joue lorsqu'un enfant doit consulter un professionnel de la thérapie. En effet, il peut sembler difficile pour des parents de franchir ce cap, car cela peut nécessiter une grande remise en question. Et c'est avec toute ma bienveillance et avec l'aide d'un témoignage que je vais vous expliquer les bienfaits d'un éventuel suivi. Et comme chaque vendredi, de 17h à 18h, Jennifer est au rendez-vous pour m'interroger sur ce qui peut vous interpeller.
Bonjour Alice.
Bonjour Jennifer.
Une émission à nouveau ensemble, comme chaque vendredi, de 17h à 18h plutôt, pas 2h, même si on aurait toujours à dire de plus en plus, il faudrait presque allonger le temps, mais je crois qu'après on vous empiéterait trop sur vos consultations. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui dans cette émission Alice et vous, effectivement, nous allons pousser la porte du cabinet pour entrer un petit peu dans une problématique, ou qui n'en est pas une forcément, mais un thème en tout cas. Donc aujourd'hui, celui de la psychothérapie des enfants. Alors la psychothérapie des enfants, qu'est-ce que c'est un peu généraliste comme thème, mais on va un petit peu l'aborder afin de savoir ce que c'est. Donc en quelque sorte, c'est un suivi chez l'enfant.
Tout à fait, c'est un suivi chez l'enfant par un psychologue, un pédopsychiatre ou un psychanalyste, voilà, comme moi. C'est à un moment donné, c'est quand on se pose la question de savoir si son enfant a besoin justement de voir quelqu'un, soit suite à un événement familial, dramatique ou autre, ou ça peut être aussi suite à des comportements qui peuvent être ou inappropriés ou différents de ceux d'habitude. Et ça peut être intéressant quelquefois de faire le point sur ce que ressent l'enfant et peut-être où il en est à ce moment précis dans sa vie.
L'ouverture de la parole, du dialogue avec un tiers en quelque sorte.
Tout à fait.
Souvent, la parole en famille est bien, déjà. Il ne faut pas non plus la bannir ou la mettre de côté. Mais c'est vrai que parfois, l'intervention d'un tiers peut neutraliser un petit peu tout ça, quelque part, Alice, et faire peut-être ressortir des choses que, dans un contexte familial, on ne pourrait pas. C'est effectivement ça ?
Tout à fait, c'est ça. Comme vous dites, on va ne surtout pas négliger la communication familiale entre parents-enfants qui est très importante. Mais quelquefois, en fonction de ce qui se joue justement parce qu'il y a l'affect, on n'arrive pas à démêler certains nœuds. Et il peut être envisagé effectivement d'aller voir un tiers neutre qui pourra peut-être nous expliquer ou nous donner des solutions.
Alors avant qu'on accueille notre témoin assez rapidement, ça s'adresse à tous les enfants et à n'importe quel âge ?
On va dire à tous les enfants, on va dire si les enfants vont bien et qu'il n'y a pas d'événement de vie, laissons-les tranquilles, les enfants. Ensuite, moi, pour ma part, je commence à les recevoir, on va dire, plutôt à partir de 4 ans, même si cela peut paraître jeune en fonction de ce qui se passe chez l'enfant. Et après, jusqu'à nos ados, après de 18-20 ans, bien évidemment.
Allez, on reviendra après dans le détail de toutes les circonstances, de tous les contextes qui pourraient faire la nécessité donc d'un suivi. Et qui dit suivi ne dit pas défaillance, problème, folie et caché. Voilà, on n'est pas du tout traitement médical. Voilà, on n'est pas du tout dans ça, Alice. Il faut dédramatiser un petit peu.
Tout à fait. Bon, déjà, je ne suis pas psychiatre, donc moi, je ne diagnostique pas les maladies. Après, c'est de mon travail d'identifier s'il y a effectivement des pathologies mentales et pas physiques.
Hein,
en aucun cas, j'observe le corps de l'enfant. C'est plutôt son comportement, ce qu'il a à me dire ou pas, ou ce qui se joue dans ce qu'il vit lorsque ses parents ont décidé de me le confier.
Et au cas où, faire référence à une ou à un tiers qui sera à même à suivre une certaine pathologie. Alors, tout de suite, nous allons accueillir un témoin qui se nomme Nicolas et qui va justement nous en dire un petit peu plus sur la manière dont il a vécu la chose. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous dans cette émission Alice et vous. Alors Nicolas, que s'est-il passé en quelque sorte pour que vous ayez eu besoin d'un professionnel pour votre enfant ?
Alors mon fils Baptiste, c'est beaucoup, on en parle beaucoup en ce moment. Baptiste subissait un harcèlement, ou plus exactement, nous pensions, sa mère et moi, qu'il subissait un harcèlement.
Entre sa maman et vous, c'est ça?
Non, excusez, Baptiste subissait un harcèlement à l'école.
À l'école, d'accord.
Voilà. Et donc, on ne sait pas, étant donné que nous sommes parents, on ne sait pas où est le vrai du faux, et donc on a besoin de professionnels pour le savoir. Et c'est pour ça qu'on a rencontré Alice.
Alors, quand est-ce que ça a été en quelque sorte facile ou pas? Est-ce que de se dire quels étaient les signaux d'alerte pour que vous puissiez dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas?
Alors, les signaux d'alerte, c'est d'abord en discutant, puisqu'on essaie de discuter le plus souvent possible avec Baptiste, d'aller au fond des choses. On sentait bien qu'il y avait des choses qu'il n'abordait pas. On a donc été enquêté d'une certaine manière. On a discuté avec les professionnels éducatifs de l'école et on s'est aperçu qu'en effet, en discutant avec elle et en recoupant quelques informations, on s'est aperçu que ça pouvait être du harcèlement parce que il était plus ou moins renfrogné certaines fois lorsque on abordait certains sujets. Et ça nous surprenait parce que c'est un enfant qui est très volubile et qui parle très facilement.
D'accord. Donc là, il y avait plutôt à l'inverse, on va dire une fermeture sur lui-même et il n'était pas propice au dialogue et à dire les choses comme vous pouviez les imaginer en quelque sorte.
Exactement. Et nous, ça nous a inquiétés. Et comme malgré tout, on entend beaucoup parler de ce harcèlement, je pense que ça peut être aussi certaines fois, comme beaucoup de choses qui sont mises en avant, ça peut être aussi un mot poubelle. On s'est dit, on va savoir si vraiment il est harcelé ou pas. On va aller voir un professionnel. Mais malgré tout, on avait, d'après les descriptions, on avait bien compris que, oui, il subissait d'une certaine manière un harcèlement, tout à fait.
Quel âge a-t-il, Baptiste, s'il vous plaît?
Alors, aujourd'hui, Baptiste a 12 ans. Lorsque c'est arrivé, Baptiste avait 8 ans.
8 ans, ça paraît extrêmement jeune quand même pour subir de l'harcèlement. Une fois que vous avez donc vous et sa maman compris qu'il se passait donc quelque chose qui n'allait pas, donc vous avez enquêté. Et cette enquête, ça a été de quelle manière? Vous êtes allé à l'école, vous avez observé, comment ça s'est passé?
Mais on a donc rencontré.
8 ans, c'est bien la primaire, hein, on est bien d'accord. Hein.
Pardon?
L'école primaire, c'est à 8 ans, on est bien d'accord. Hein,
c'est ça, exactement, oui. On a donc rencontré l'équipe éducative. Mm-hmm. On a en effet eu un témoignage, mais c'était un harcèlement. C'était un harcèlement comme beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants sont cruels entre eux. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui reçoivent plus que d'autres. Donc, on a eu cette information de la part de l'équipe éducative qui a confirmé nos doutes sur le fait qu'il se passait quelque chose, mais on ne savait pas nous à quel endroit placer le curseur, si on était dans quelque chose de grave, déjà si on était dans le harcèlement ou pas, si on était dans quelque chose de grave ou pas, et s'il fallait dégoupiller la grenade, regoupiller la grenade, et donc le faire par un professionnel qui lui seul sait s'il y a harcèlement ou non.
Oui, non, parce que c'est vrai que de suite le mot paraît fort quand même quand on dit harcèlement, et généralement à ces âges-là, on se dit que c'est un petit peu de la comme vous disiez tout à l'heure, de la cruauté à travers les enfants, parce que là cette forme d'harcèlement, elle se traduisait par quoi? C'était quoi ces témoignages qui vous disaient quelle était la nature justement? Est-ce que c'était de la chamaillerie, de la moquerie ou d'autres choses?
Non, c'était de la moquerie. C'était aussi de temps en temps, ça pouvait en venir aux mains, mais de façon plutôt occasionnelle et non fréquente. Ça pouvait être également, le fait de ne pas être accepté dans un groupe ou de dire simplement que, puisque à 8 ans, on prend les mots de façon totalement différente de ce que on les prend lorsqu'on est adulte. Donc ça pouvait être le fait de dire « non, mais je veux pas m'amuser avec toi ». Ça pouvait être des choses comme ça. Il y a des enfants où on veut pas s'amuser avec toi, c'était ça plutôt. Et il y a des enfants qui sont plus ou moins sensibles. Et du coup, comme, eh bien, lorsque vous vous donnez un coup quelque part et que vous vous sentez que il y a un, comment dire, que le coup est bien reçu et que ben vous avez quelque chose ou quelqu'un de fragile face à vous, et ben vous continuez. Et c'est ce qui se passait avec Baptiste.
Oui, c'était un petit peu le souffre-douleur en quelque sorte, puisqu'il était assez du coup facile de l'ennuyer, et comme il n'y avait pas peut-être de répondant derrière, du coup ben c'était un petit peu le bouc émissaire en quelque sorte, c'est ça?
Peut-être, oui, tout à fait, peut-être. Mais il faut quand même dire que on a malgré tout débrouillé, on a démêlé cette affaire avec Alice, et on s'est un petit peu aperçu aussi que lui, de son côté, était aussi un petit peu cruel, mais certainement plus fragile que les autres. Et donc, comme vous disiez, il n'était pas forcément la tête de Turc, mais il faisait partie des enfants qui recevaient plus que les autres.
Alice, alors justement, puisque Nicolas m'a fait la transition, et merci Nicolas, ce que vous avez pu constater, c'est cette forme un petit peu alors, ce qu'on n'attendrait pas, hein, du coup, puisque quand on subit, on se dit que forcément, on est le bourreau, mais pas celui qui va... qui, voilà, vous
donc,
comprenez.
Tout d'abord, bonjour Nicolas.
Et, bonjour Alice.
Après, c'est difficile, l'antenne, d'entrer un peu dans la confidentialité et les révélations. Il y avait aussi le statut de Baptiste qu'il avait aussi dans son école. Je peux me permettre de parler de la profession de votre femme, Nicolas?
Oui, bien voilà. Volontiers.
Sa maman est un stit. Je veux dire, lui donner un statut aussi un peu particulier au sein de
un site au sein du même établissement.
Au préalable, c'est bien ça, Nicolas.
À cette époque-là,
et suite à cela, la maman a décidé de changer d'établissement.
Suite après à ces problèmes qu'il a subis, d'accord. Parce voilà. Qu'en fait, le fait de faire partie de l'établissement pouvait faire en sorte que les élèves
si on
le prenaient un peu à partie, c'est ça?
Justement, de la cruauté de certains élèves ou certains de
ça
ceux
jeune, pourtant,
qui veulent prendre un petit peu le pouvoir pouvait aussi effectivement... consciemment ou non, hein, ou inconsciemment, faire en sorte qu'il était, on va dire, comme a pu dire Nicolas quelquefois, la tête de Turc, facile, voilà, étant donné que...
La question, Alice, avant de redonner la parole à Nicolas, on se dit, est-ce que c'est un état de faiblesse ou une caractéristique dans l'éducation de l'enfant qui fait que lui, il subit, ou c'est la nature même de n'importe quel enfant, parce que c'est sa personnalité? Est-ce que de dire, quand je veux dire ça, je vais être plus précise, c'est-à-dire, est-ce que à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'éducation et de dire, rendre coup pour coup? Mon fils, ma fille, quand on te tape, tu tapes. Est-ce qu'il faut qu'on enseigne ça à nos enfants? Est-ce que après c'est tout simplement le caractère de l'enfant? Voilà. D'où ça vient?
C'est compliqué, hein, parce que moi j'aime pas parler de faiblesse. Je préfère parler de fragilité déjà. Après, comme vous dites, les valeurs éducatives font que la violence ne doit pas faire partie de notre quotidien. Mais effectivement, que dire à son enfant qui se fait frapper, oui, à part le dire oui, tu vas le dire à ton instituteur, à
ta maîtresse, voilà, à ton maître,
au surveillant. Effectivement, c'est un discours qu'on peut entendre au sein des familles. Ok, tu ne tapes pas le premier. Mm-hmm. Tu as le droit de te défendre, mais en aucun cas tu taperas le premier.
C'est ça.
Mais là, c'est, on va dire, c'est quelque chose qui était un peu plus complexe, qui se jouait chez Baptiste. Hein. C'est pas du tout le côté fragile ou autre. C'est une valeur, on va dire, dimensionnelle, différente. Et bon, dites-moi si je me trompe, Nicolas, aussi, ce qui en est ressorti, c'était justement, c'est une famille où on communique beaucoup, voilà, chez Baptiste. Mais à un moment donné, il y avait comme pas un point de rupture, mais il y avait cet enfant qui s'enfermait sur lui. Mais finalement, il a voulu protéger ses parents. Et en voulant protéger ses parents ont pensé que la situation était beaucoup plus grave que ce qu'elle l'était.
D'accord.
Alors je ne veux pas minimiser, mais voilà ce qui s'est aussi joué dans les faits.
Nicolas,
alors,
je vous laisse la parole.
Ce qui était remarquable, ce que nous on avait remarqué, c'est un petit peu pour ça également que on a été plus en avant et que on a compris ce qui se passait. Enfin, on s'est douté de ce qui pouvait éventuellement se passer, c'est que Baptiste, Baptiste refusait, était dans le refus, était communiquer dans le refus, communiquer dans le conflit. Voilà, c'était au travers du conflit, c'était au travers du non, c'était au travers de la négation qu'il communiquait avec nous. Mais d'abord, il disait toujours non, il refusait tout le temps, et puis ensuite, voilà. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui a, hormis peut-être le caractère, mais cette procrastination d'accepter de communiquer, le fait de remettre un peu plus tard, toujours systématiquement, le fait de communiquer, nous a mis la puce à l'oreille.
Parce qu'après, c'est vrai qu'on se, on a toujours cette conscience en tant que parent de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a fait de mal? Est-ce que vous vous l'êtes dit cette question? Est-ce qu'il y a quelque chose avec ma compagne, avec la mère de Baptiste, avec qu'on a mal fait? Est-ce qu'on n'a pas assez communiqué? Est-ce qu'on aurait dû intervenir, voir des signaux? Est-ce que des questions comme ça, elles sont venues dans vos esprits?
Ah, naturellement. On n'est pas malgré tout dans un pays judéo avec une base judéo-chrétienne pour que nous on ne se pose pas ce type de questions. Donc naturellement la culpabilité est très vite arrivée et je n'étais pas féru du tout de faire voir à des professionnels et Alice le sait, de faire voir à des professionnels mes enfants puisque je ne savais pas à l'époque. Qu'en fin de compte, ils pouvaient vraiment leur faire du bien, ils pouvaient vraiment démêler des situations compliquées. Et c'est grâce ou à cause ou du fait de ce questionnement, de cette culpabilité, ou de toutes les façons, si on est un parent normal, on se pose toujours des questions. C'est grâce à ça qu'on a été voir Alice, c'est certain.
Alors justement, cette démarche, elle vous est venue naturellement, spontanément quand même, parce que généralement dans l'inconscient collectif, on se dit à partir du moment qu'on fait appel à un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, peu importe, on se dit oh, on a un problème, on n'est pas chez les fous. Vous vous êtes dit tout ça ou à un moment donné, ça c'était une évidence de faire appel à un professionnel?
Alors c'est exactement ça, mais c'était plutôt dans mon inconscient ce que vous dites plutôt que conscientisé, c'est-à-dire que je ne pouvais pas le mettre en parole. Je l'ai compris après quand j'ai vu les résultats. Mais en réalité, oui, on s'est naturel. Enfin, moi, je me suis naturellement dit ça puisque je ne suis pas du métier des enfants. Mon épouse, oui, je me le suis naturellement dit, naturellement par rapport à mon histoire, pardon. Je me suis naturellement dit ça et le questionnement, sachant qu'on tombait sur des impasses, que lorsqu'on se questionnait, il fallait simplement trouver quelque chose, quelqu'un qui nous permette de sortir de l'impasse. Et oui,
parce qu'à vous deux, ça ne suffisait plus. À vous deux, ça ne suffisait plus.
Exactement. Et justement, Alice a dit quelque chose de très vrai tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas assimiler les choses que je pense une personne lambda peut faire. Un psychiatre avec un psychothérapeute, ça n'a absolument rien à voir. J'ai eu l'occasion de rencontrer ou de discuter avec un ou des psychiatres et leur approche de la situation est quand, sans commune mesure, ça n'a absolument rien à voir. Et moi aujourd'hui, je pense d'ailleurs pour une autre situation, puisque Baptiste a développé justement certaines capacités à rentrer en conflit avec nous un petit peu trop facilement. Justement, on pense retourner voir Alice par rapport à cette situation. Et là, c'est plutôt interfamilial, cette situation. Je pense qu'il faut démêler. Et grâce au fait que Alice nous ait déjà rencontrés tous les trois à plusieurs reprises, je pense qu'on peut avancer puisque les dernières fois on l'a rencontrée, on a avancé. Et Baptiste a confiance en elle surtout.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous poser parce que une fois que donc on a identifié le problème, que vous avez vu que vous étiez un petit peu donc dans une forme d'impasse, que il fallait l'intervention d'un tiers. Après, vous êtes fait un petit peu à mes consciences que voilà, Alice n'était pas que pour les interventions chez les fous. On a fait toute cette transition. La démarche, vous êtes allé la voir donc en famille, j'imagine, donc avec votre fils Baptiste, votre épouse et donc vous-même. Voilà, quel a été donc vos ressentis dès que vous vous êtes installé en dehors, bon, j'imagine la confiance qui s'est établie avec Alice, mais voilà, comment les choses se sont abordées? Je dis ça, je vous demande je vous fais cette demande parce que j'aimerais un petit peu rassurer les personnes qui voudraient faire la démarche et qui hésiteraient encore.
Alors, moi j'ai senti chez Alice une temporisation, un calme, une organisation dans ses questions, une écoute, et j'ai été assez rapidement rassuré, sachant que je suis plutôt quelqu'un de revêche ou avant de faire confiance, j'ai du mal. Je pense que Alice fait aussi partie de la réussite de cette avancée de Baptiste. Donc, on s'est assis, il y a quelques minutes qui se sont passées, on n'est pas resté pendant tout l'entretien, les parents, on est sortis au bout d'un moment, Alice a parlé et est restée avec Baptiste pendant un long moment, parce que ce sont des moments, je me suis aperçu après, qui leur appartiennent à eux. Et c'est grâce à ça, justement, je suppose, Baptiste a réussi à sortir de la situation et surtout à nous en parler derrière. Il n'en parlait pas.
Ça ne vous a pas frustré, en quelque sorte, de vous dire que vous aviez besoin d'un tiers pour démêler le problème? Ça vous
non,
a pas frustré en tant que parent?
Non, j'étais frustré de ne pas trouver de situation de secours avant d'aller la voir. Au contraire, pour moi, c'était une des solutions possibles. Et je me suis dit, bon, ben, on va tenter ça, on va essayer ça. Et j'ai eu raison puisque ça a fonctionné.
Alors du coup quand non mais c'est quelque chose de bien, mais c'est histoire de rassurer tout le monde hein, dans ce sens-là. Une fois que donc vous avez vu que le dialogue s'installait, est-ce qu'il vous l'a après témoigné Baptiste une fois que la séance s'est terminée? Est-ce qu'il vous a dit quelques petits détails ou il a gardé tout secret? Comment ça s'est passé?
Alors deux choses. La première chose c'est que Alice a bien fait comprendre à voix haute et à claire et intelligible voix que les choses qui se disaient entre Baptiste et elle, c'était des choses qui restaient entre Baptiste et elle. Et ça, on l'a accepté avant même de sortir de la pièce.
Parce qu'il y aurait des parents, je suis sûr, qui feraient l'inverse, qui diraient « Oui, non, mais dis-moi quand même, je préfère que tu me dises, ils insisteraient, vous voyez, et peut-être ça trahirait un petit peu ce jardin secret qui permet justement de laisser la communication, justement, et se démêler cette satanée situation, quoi. »
Alors, la deuxième chose, justement, c'est que malgré tout, on est rentré dans ce qui est humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Donc non. On lui a pas dit qu'est-ce qui s'est passé. On lui a dit, alors, comment ça s'est passé? Voilà. Et c'est plutôt dans cette chose-là où on voulait qu'il y ait à nouveau un lien entre ce qui s'était passé et nous. On voulait à nouveau qu'il rentre dans cette relation familiale, qu'on lui dit, alors, comment ça s'est passé? Et à ce moment-là, bah, il nous a pas dit dans le détail, puisque Alice a certainement très bien fait son travail, puisqu'il nous a jamais donné de détails. Mais on a bien compris que la qualité de la douceur et de l'écoute était là.
Mm-hmm.
Oui, puisque il est sorti de là, il était naturel, mais on a senti qu'il était apaisé.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander justement. Vous avez senti quelque chose comme ça?
Oui. Alors c'est pas transcendant parce que
non, c'est pas de la magie. On n'enlève pas la problématique en un seul coup. Mais malgré tout, il y avait déjà. On
malgré
va dire
tout,
pas.
Il a accepté d'y retourner. Voilà, c'est plutôt ça.
D'accord.
Malgré tout, il a accepté d'y retourner, de reprendre rendez-vous, puisqu'ensuite on est rentré et on a repris rendez-vous. Et on lui a posé la question en sortant, est-ce que vraiment tu veux qu'on prenne rendez-vous? Si, il nous a dit oui, je veux bien.
D'accord. Donc après, une fois que cette séance s'est fameusement bien passée, que le dialogue s'est construit entre Alice et toute la famille, mais ensuite entre Alice et le petit Baptiste, à l'époque âgé de 8 ans, donc vous sentez qu'il est en confiance, vous prenez un autre rendez-vous. Alors, comment se démêle la situation au fur et à mesure? Est-ce qu'il a fallu plusieurs rendez-vous d'une part? Et après, comment ça s'est traduit au niveau de l'école et de ce fameux harcèlement?
Ben c'est surtout qu'après, on a convoqué une équipe éducative, malgré tout. C'est-à-dire qu'il y avait la directrice, il y avait une tata, ce qu'on appelle une tata, et puis
l'assistante.
La maîtresse. Mm-hmm. Voilà, et la maîtresse. et on a expliqué ce qui se passait. Elle nous avait bien donc reçus auparavant. On a expliqué ce qui se passait. On a expliqué qu'on avait été voir une professionnelle. On a expliqué que, parce que malgré tout, on a eu un retour de la part d'Alice, qui nous a fait, d'une certaine façon, un résumé sur nos croyances. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai, à quel niveau on en était, puisque nous, on ne sait pas du tout, encore une fois, où est le curseur, où le placer, etc. Et grâce à ça, on a rencontré les équipes éducatives et on leur a expliqué ce que Alice nous avait indiqué. La définition du harceler, c'est ça. Baptiste connaît ses harceleurs, donc on a été le plus discret possible pour que, bien sûr, Baptiste ne sache pas ce genre de choses-là, puisque c'était pas notre rôle. Nous, on a simplement, donc, comme je vous disais, lorsqu'on était face à l'équipe éducative, on n'a pas cité les noms. On a simplement dit que c'était des enfants qui, a priori, c'était pas la première fois. Et c'est lorsque l'équipe éducative est revenue vers nous, en nous citant des prénoms, où là, on a...
Vous avez acquiescé
D'une certaine manière acquiescé, voilà. Okay. Plutôt d'une certaine manière acquiescé, sans donner un oui véritable, parce qu'après, ça peut être la vendetta, etc. On sait pas du tout comment les enfants vont réagir entre eux à cet âge-là. Ils sont tellement cruels entre eux que, voilà.
Parenthèse, Nicolas, vous êtes pas un petit peu insurgé aussi, ce comportement qui serait presque naturel chez des parents, de dire attendez quand même, il a fallu que ça soit nous, bon, même si le rôle des parents c'est à nous de nous apercevoir des problèmes, etc., mais de dire vous vous apercevez pas quand même qu'il y a ce type de dysfonctionnement, d'harcèlement qui subsiste au sein de votre établissement, que mon enfant le subit et peut-être d'autres.
Alors non seulement c'est insurgé, je me suis insurgé non seulement, mais je suis capable de beaucoup de violences verbales, donc je me suis malgré tout maîtrisé. Mais j'ai bien fait comprendre que, puisqu'à un moment, il y a même une des personnes de l'équipe éducative qui nous a dit « Oui, on avait remarqué quelque chose. »
Oui, alors ça fait oui.
Donc vous aviez remarqué quelque chose, mais vous ne nous avez pas convoqué pour nous en parler. Pourquoi ? Pour quelle raison ? On voulait arranger les choses, on ne voulait pas... monter ça en épingle, etc. Voilà, j'ai dit vous avez eu tort. Donc après c'est comme dans tous les métiers, on peut faire une faute, ne pas faire une faute. On a la chance d'avoir eu la possibilité de nous apercevoir de ce qui s'est passé. On a la chance d'avoir eu une personne comme Alice qui a vraiment validé et qui a également démêlé la situation. Donc malgré tout. Et ensuite, les personnes, lorsqu'on les a quittées, nous ont dit « Ah, mais alors, vous allez faire attention à tout ce qu'on va faire à la moindre virgule. » On leur a dit « Mais on va rien faire de plus qu'avant. On va simplement être des parents, comme on l'a été et comme on le sera demain. »
Attentionné à l'état émotionnel de notre enfant, mais c'est normal,
Exactement.
Ça paraît dingue. Voilà. Ça paraît dingue, Nicolas. Alors, une fois que vous avez rencontré l'équipe éducative et que vous avez donc dit tout ce que vous venez de nous dire, qui fait quand même assez sourire, mais pas dans le bon sens, du coup, donc, les choses vont s'arranger parce que l'équipe éducative est alertée. Du coup, les intervenants qui provoquaient ces situations-là envers Baptiste et peut-être d'autres vont se calmer. Et tout rentre dans l'ordre assez facilement.
Alors, il y a eu plusieurs actions, puisque c'est jamais un ingrédient dans une recette. Donc, la première action, c'est que nous, on a dit à Baptiste, on souhaite savoir comment est-ce que les choses vont évoluer.
Ouais.
Donc, déjà, on a discuté avec lui très régulièrement, puisque c'est lui qui nous importe plus que l'entourage.
On est d'accord.
On lui posait des questions, bien sûr, sur ce qui se passait auprès de l'équipe éducative, donc la tata, la maîtresse, etc. Ensuite, on a appris que les parents et les enfants avaient été convoqués, puisqu'ils n'en étaient pas à leur essai, ils avaient été convoqués par la directrice, la directrice, c'était une directrice, c'est ça, pour en discuter, justement. Donc après, ça c'est leur métier, je ne sais pas ce qui a été dit ou pas. Mais surtout, il y a eu, je crois que ce que moi j'ai remarqué, c'est que Baptiste, s'est vraiment aperçu qu'on avait pris en compte sa difficulté, que nous, parents, avions pris en compte sa difficulté,
Mais ça a été un facteur un petit peu. On a perdu Nicolas. On va essayer de le parce qu'il était sur son portable. Alors, en attendant, vous pouvez justement réagir par rapport à ce qu'était en train de dire Nicolas. Que apparemment, c'est le fait d'avoir
écouter.
Compris et écouter que.
En fait, c'est ça qui est important lorsqu'un enfant a une problématique. Bon, là, on parle de celle de Baptiste et de harcèlement. C'est vraiment la prise en compte de la parole de l'enfant. Déjà lui dire qu'on le croit et aussi agir en fonction de ce que souhaite l'enfant. Si on parle de ce cas de harcèlement, c'est d'interroger l'enfant, lui demander est-ce qu'il souhaite, oui ou non, que nous intervenions. Et s'il ne le souhaite pas, effectivement, peut-être mettre en place une stratégie comme ont pu le faire Nicolas, finalement, et sa femme. Voilà. Et ce qui peut aussi paraître stupide, mais basique quelquefois, c'est que lors des équipes éducatives, les psychothérapeutes et autres sont très peu conviés. Et moi, très souvent, je demande aux parents s'ils souhaitent que j'y participe. Et ce sont les parents qui peuvent voilà m'imposer ma présence au sein de ces équipes éducatives, voilà, pour permettre de leur donner mon point de vue, on va dire, de professionnel, oui, de la psychologie, voir ce qui se passe chez l'enfant, voir ce qu'il ressent et ce qui pourrait être peut-être intéressant de mettre en place avec tous les autres professionnels et ou on va dire spécialistes qui suivent l'enfant. Voilà ce qui s'est, on va dire, joué là-dessus. Mais voilà, mais après, c'est vrai, cette parole, cette écoute de l'enfant est très importante. Et c'est vraiment ça, on va dire, qui se joue dans toutes les séances, quelle que soit la problématique. C'est en premier lieu cette confiance qui doit être mise en place. Bien évidemment, la principale confiance, celle du psychothérapeute ou du thérapeute et de l'enfant. Et bien évidemment, quand les parents sont conciliants, c'est beaucoup mieux pour qu'on fasse justement cette fameuse alliance pour qu'il aille mieux, cet enfant.
Merci en tout cas, Alice, d'avoir donné toutes ces explications. Le temps de me permettre de retrouver Nicolas, c'est les aléas du direct. Hein. Nicolas, vous êtes bien de retour et Alice était en train de nous dire justement l'importance que vous aviez dans l'esprit de Baptiste, que voilà, de dire que ses parents avaient pris conscience de ce qui se passait, de ce qui se jouait, et que quelque part c'est un premier pas dans le soulagement et de dire que déjà il est plus seul face à cette situation.
C'est exactement ça. Et je crois que c'est à ce moment-là où il a compris que on prenait en considération ses difficultés, qu'on était
ensemble,
des actions en œuvre, que vraiment là il y a eu pour lui, on a senti assez rapidement une amélioration, y compris dans le relationnel avec ses copains.
Ah oui, ça a changé. D'un coup, ça tout, presque ça lui a donné quoi, un autre
coup,
comportement.
Pas, mais assez rapidement.
Oui, non, mais quand je dis d'un coup, c'est-à-dire que c'est le chemin qui a emmené vers la voie d'un épanouissement en quelque sorte à l'école et de plus subir toute cette souffrance, cette violence pour lui en fait.
Oui, c'est comment dire.
En quoi il a changé dessus, mais en quoi vraiment il a changé dans son comportement? Il était à se révolter. C'était quoi vraiment? Comment ça se traduisait?
Non, il recommuniquait, il redevenait volubile, il recommuniquait légèrement, comme on communique légèrement quand on a 8 ans. Même si nous adultes, quand on a un enfant de 8 ans qui communique, on a toujours l'impression que c'est léger, mais c'est jamais léger. D'accord. Donc il recommuniquait normalement comme un enfant de cet âge-là. Alors, malgré tout, je vous dis ça rapidement, parce que pour moi, le simple fait que je le voyais avancer, ça a été toujours très rapide, parce que très satisfaisant pour moi et pour l'action qu'on doit mener en tant que parent en direction des enfants.
Alors, les deux dernières questions que je vais vous poser, Nicolas, la première, c'est combien a-t-il fallu de séances, même si c'est pas révélateur, hein, sur le parce que je pense que Alice, vous, au cas par cas, il n'y a pas de séances en moyenne pour dire vous êtes dans la fin d'une situation qui serait démêlée. Mais là, donc vous, Nicolas, ça s'est joué sur combien de séances à peu près pour Baptiste avec Alice?
Alors c'est difficile de le dire parce que j'ai pas forcément
en tête,
toujours
hein.
Suivi. Ouais, je pense que...
Bon, la période, à la limite, sur une période, combien de... Voilà, est-ce qu'il a fallu longtemps ou pas?
Alors,
pour...
moi, je crois que ça a été plutôt en deux phases, déjà. Il y avait une première phase où il y a une vraie action, il y a une vraie démarche de la part de Alice, et il y a un vrai traitement, entre guillemets, de la difficulté. Et je pense que là, c'est une histoire de 4-5 séances. Et ensuite, il y a une autre démarche de validation des progrès et de surveillance où il y a eu, par contre, de façon plus espacée, il me semble qu'il y a eu encore entre 2 et 4 séances complémentaires.
Oui, pour dire en fait de dire la situation va dans le bon sens, Baptiste va de mieux en mieux, mais pour s'en assurer, de temps en temps, il fallait encore prendre des...
Tout à fait, ce que j'appelle faire des points, ouais. Des points ponctuels, c'est-à-dire on traite la situation. Si les parents le souhaitent et l'enfant le souhaite, bien évidemment, par la suite, de façon ponctuelle, on peut faire des points, voir ce qui se joue. Et de mon côté à moi, c'est pour m'assurer de la consolidation finalement de l'enfant.
Alors la question que je voulais vous poser, Nicolas, et je vais vous laisser après revaquer à vos occupations, mais... moi, ce qui m'interpelle, c'est bon, on a compris le déroulement et tout, comment ça a commencé cette situation, mais dans la tête de votre épouse, donc de la maman de Baptiste, elle faisait partie quelque part de ce système. Elle n'a pas été révoltée en faisant en plus elle partie du système, de se dire que elle le subissait finalement, puisque c'est à travers son enfant qui s'est passé cette situation d'harcèlement à l'école, mais de dire. Moi, je fais partie de ce système et il n'y a pas un défaut à un moment donné pour que nous, en tant qu'enseignants, on laisse passer ces choses-là.
Alors, si c'était que ça, ça serait super simple. S'il n'y avait que ce problème-là, ça serait super simple. Franchement, je ne peux pas répondre à votre question à sa place. Ça, c'est la première des choses. Si vous voulez, ils ont quand même des moyens. Elle m'a expliqué qu'ils ont quand même des moyens pour justement, d'abord, ils ont des formations pour savoir si on est dans le harcèlement, si on n'est pas dans le harcèlement. Ça, c'est déjà une de leurs formations. La seconde chose également, c'est qu'après, l'institutrice ou la personne qui a remarqué peut convoquer elle-même l'équipe éducative et discuter de telle ou telle action, de tel ou tel enfant envers un autre. Donc, est-ce qu'elle a été révoltée? Je crois que moi, je suis plus rebelle qu'elle, je suis plus révoltée qu'elle, mais je peux pas répondre à
non,
à
non, mais peur, je comprends, mais comme c'est un dialogue mère, que vous auriez pu avoir, mais de se dire, mon Dieu, il y a une faille quand même au niveau du système éducatif, de pas se rendre compte de ce que peut subir un enfant et comment il éprouve ensuite.
Mais ils s'en étaient rendu compte.
Oui, mais c'est qu'ils l'ont pas. Et oui, je sais. Voilà. C'est... Mais bon, là, c'était de laisser dormir cette situation, quoi.
Eh ben oui, je suis d'accord. On est d'accord, mais on a préféré plutôt que de porter un jugement, plutôt que de dire ils auraient dû faire, plutôt que on a préféré dire ce qu'on va faire, comment on se projette dans l'avenir et qu'est-ce qui est important pour Baptiste. Donc franchement, je suis pas sûr qu'elle se soit posé la question.
Oui, je comprends. Moi, vous avez focalisé sur votre enfant et c'est tout à fait normal. Et vous avez vraiment voulu savoir que le bien-être et pas non plus refaire tout un système qui à vous deux n'aurait pas de toute manière changé grand-chose. Mais vous avez voulu vous focaliser et c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que des fois on peut se révolter de se dire voilà, j'imagine ce que vous auriez dû vouloir sortir comme mot à ce moment-là quand ils ont dû vous dire on avait connaissance. Oui, bon, mais vous allez avoir connaissance d'autre chose maintenant, de ma colère. Donc, ça peut se comprendre. Mais voilà.
Même,
ça n'aurait pas changé grand-chose.
Si je peux me permettre, on peut même pas se dire on va se mettre en colère. Parce que quand j'ai été moi dans ma période scolaire, quand j'ai entendu mes sœurs, quand j'ai entendu ce qui s'était passé avec leurs enfants, il y a un moment où on se dit... On va peut-être pas rentrer dans la colère parce que l'objectif, c'est de se projeter sur l'avenir. Et qu'est-ce qui va se passer pour Baptiste si on rentre dans une colère noire, si on fait les choses qu'on a envie
c'est
de faire
productif,
à ce moment-là.
C'est pas productif pour lui et son bien-être.
Et surtout, qu'est-ce qui va se passer après? Comment est-ce qu'on va considérer Baptiste aux parents? Voilà, et exactement.
Oui,
donc, non, je pense que l'objectif dans ces cas-là, c'est Baptiste. Et puis notre colère, ben, on la renfrogne. Et puis... Et puis voilà, c'est comme ça.
Le Alice, plus important, ils ont l'air d'être des mauvais parents, hein, Nicolas non, et son enfant. Pas. C'est vraiment des mauvais parents, mon Dieu, qui se préoccupent pas du bien-être de leur enfant.
Très à l'écoute et très bienveillants.
Bravo Nicolas, en tout cas, de votre sang-froid, parce que pas tout le monde aurait eu cette maîtrise. Et c'est vrai que l'objectif unique et votre enfant, voilà, Baptiste, qui tout va bien aujourd'hui, il a 12 ans, tout va bien, ça va? Il a une scolarité, tout va bien, mis à part peut-être un peu l'adolescence qui commence à se manifester.
Alors j'ai envie de dire dans la direction et dans le sens de ce que vous de ce que vous avez abordé comme sujet aujourd'hui. Mm-hmm. Et l'année dernière, Baptiste a une qualité, c'est qu'il a un gros vocabulaire, il est en avance en termes de vocabulaire sur ses pairs.
Ouais.
Voilà. Et l'année dernière, donc en rigolant, etc., il a dit des choses et qui ont été mal interprétés par ses collègues, ce qui fait qu'il a été un petit peu considéré de façon très courte, un peu comme un harceleur. Donc, oui, parce que simplement, il avait dit des choses que les enfants ne comprenaient pas et qu'ils ont pris pour quelque chose qui n'était pas. Donc, il faut quand même dire aussi que à ce moment-là, on a pu se poser la question, est-ce que, oui ou non, un petit peu comme un homme qui se fait battre quand il est petit, il va battre ses enfants, il va avoir tendance à battre ses enfants quand il est grand. Dans le même ordre, on s'est dit, est-ce que lui peut ne pas devenir éventuellement harceleur?
Harceleur à son tour.
Et on s'est aperçu que c'était pas le cas, c'était simplement que les autres enfants n'avaient pas son niveau de vocabulaire. Mm-hmm. Voilà, exactement. Voilà.
D'accord.
Mais on fait attention à ça.
Et oui, tant qu'à faire, puisque vous l'avez subi et vous n'avez pas envie que d'autres à leur tour le subissent. Ça serait une injustice totale. Ça, on est bien d'accord.
C'est très égoïste. C'est pour penser à Baptiste, pour pas qu'il se retrouve un jour dans la peau d'un harceleur.
Mais c'est tout à fait juste. Et puis parce que après d'être dans l'autre rôle, je pense que là aussi c'est en tant que parent, même si on va dire c'est plus confortable dans le sens où c'est pas lui qui est harcelé, mais être après dans l'autre schéma, je pense que ça doit pas être non plus très très confortable et très satisfaisant d'un comportement de son enfant. Ça, on est bien d'accord.
Voilà.
Nicolas, merci infiniment de ce témoignage et de cet amour qui est bien ressorti aujourd'hui dans votre témoignage, de toute la tension que vous avez voulu porter et de en même temps apporter peut-être la solution à travers Alice et d'autres professionnels qui est d'une importance finalement capitale, parce que je pense, au vu de ce que vous témoignez, ce n'aurait pas suffi, même si vous êtes des parents extraordinaires, vous et votre épouse, ça n'aurait pas suffi à vous seuls, à tous les deux, de démêler tout cela. On est bien d'accord?
Chacun son métier. Nous, on est parents et Alice, elle est psychothérapeute.
C'est très bien résumé. Nicolas, merci beaucoup. Encore plein de belles choses pour vous et votre famille.
Merci.
Et je vous dis une bonne fête de fin d'année. Voilà, pour vous tous.
Merci
à vous.
Et merci à vous. Et merci beaucoup à Alice.
Merci à vous, Nicolas. À bientôt.
Merci, Nicolas. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Alors Alice, un témoignage de parents qu'on a tous, qu'on peut tous admirer. Hein, voilà, ils sont là, ils sont protecteurs, ils veulent que tout se passe bien pour leur enfant, comme on va dire presque tout à chacun en tant que parent. Mais donc on voit quand même que l'intervention d'une tierce personne a été capitale dans leur situation. Pourtant, c'est des parents, ils ont l'air d'être communicant, d'être assez ouvert, donc la discussion ne devrait pas être problématique. Et pourtant, votre intervention, je pense, a démêlé véritablement la situation.
Tout à fait, comme je disais tout à l'heure, il y a cette histoire d'affect, et on a besoin quelquefois de points de vue extérieurs pour nous remettre dans une réalité. Nicolas parlait de curseur entre ce qui se passait réellement.
Ce fameux curseur qu'on parle souvent.
C'est ça, ce qui était dit et ce dont il vivait. Et effectivement, quelqu'un de neutre extérieur à la situation peut effectivement permettre, comme je dis tout le temps, de défaire finalement le nœud central.
Alors, à la fois pour ne pas culpabiliser, là aussi, souvent, parce que on se dit souvent que on a fait quelque chose de mal, qu'on n'a pas été à l'écoute. Si on est dans cette situation, Alice, déjà, comment identifier le problème? Voilà, parce que c'est pas facile en tant que parent. Peut-être qu'on n'a pas la facilité de communiquer au sein de notre famille. Comment s'y prendre? Qu'est-ce qui doit nous alerter? Si il y a quelque chose, bon, déjà on connaît notre enfant, certes, il y a quelque chose qui va changer pour que. Mais parfois il y a des parents qui se rendent pas compte et qui arrivent un petit peu trop tard.
C'est ça. On va dire s'il y a des points d'alerte, ce sont des changements de comportement, comme j'ai tout à l'heure. Bon, si on parle de Baptiste, lui, c'était plutôt renfermé en famille. Après, quelquefois, ça peut être des enfants qui peuvent devenir agressifs, violents, hyper émotifs, hyper sensibles, en fait, en alerte à tout ce qui peut être différent d'avant.
Et il y en a aussi qui ne font rien transparaître.
Ben justement, c'est là aussi où je mets les parents en alerte. Lorsqu'il y a un changement de situation de vie et que l'enfant, justement, ne sort rien, ne laisse rien se transparaître, il peut être bon, justement, d'aller voir ce qui se passe. Est-ce que cet enfant est dans le déni ou est-ce qu'il est en train de se ronger de l'intérieur?
Et oui, mais parce que c'est dur, Alice, vous rendez compte de se dire, bon, à un moment, on va faire appel à un spécialiste tel que vous, voilà, un psychothérapeute, mais on se dit pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on suit bien le divorce. Parce qu'on suit bien décès, et alors on va même pas chercher à comprendre s'il y a quelque chose qui change dans le comportement de l'enfant. On l'emmène voir un professionnel pour qu'on voit si tout va bien.
Alors on va dire déjà tout dépend de l'enfant et tout dépend aussi de la facilité des parents à communiquer. S'il y a une difficulté en effet à évoquer des émotions, des sentiments en famille, il peut être bon d'aller voir quelqu'un d'autre. Après, moi, il me semble, ce n'est pas parce que je suis psychanalyste que je dis ça, que ce n'est pas mauvais d'aller faire un bilan, justement, et un point lorsqu'il y a effectivement divorce, lorsqu'il y a décès, lorsqu'il y a maladie, et lorsqu'il y a aussi agression sexuelle. Ça aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui peut aussi arriver à un grand nombre d'enfants.
Et oui, parce qu'il y en a des situations. Là, on a évoqué un témoignage parmi tant d'autres et parmi tant de situations. Hein. Ça aurait pu être quelqu'un qui a subi une perte dans la famille, quelqu'un qui est divorce, comme vous disiez, attouchement sexuel et bien d'autres qui peuvent découler de tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a multiples raisons, voire même aussi des fois un changement de vie. Quand, par exemple, il y a des fois les parents changent de parcours professionnel et que c'est un virage à 360 degrés. Et là, des fois, ça peut être mal vécu pour la famille. Donc, plein de contextes et de situations, quelque part, d'avoir affaire à un professionnel tel que vous, Alice.
Ah, mais c'est ce que je pense sincèrement, bien évidemment. Parce qu'en tant... Alors, moi, même si je dis que les parents sont les meilleurs psychologues pour leurs enfants, parce qu'à part eux, personne ne connaisse aussi bien leurs enfants. Mais lorsque nous sommes tous embarqués dans notre quotidien, on va dire aujourd'hui, comme je le dis tout le temps, on a des vies de robot, on est plutôt speed et on prend de moins en moins le temps de se poser. Et c'est quelquefois qu'on peut passer à côté de certaines problématiques qui nous auraient même pas traversé l'esprit. Quoi.
Comment vous conseillerez de les aborder? C'est peu importe hein, dans quel contexte on est, de divorce ou... Comment déjà aborder de manière...
Alors comme je dis déjà, c'est être sincère avec son enfant. C'est oser dire quand on ne va pas bien, quand on traverse une période difficile. Dire voilà, c'est pas facile effectivement, tu vois que papa, maman est triste ou énervant en ce moment. Mais déjà c'est déresponsabiliser l'enfant en lui disant que ce n'est pas de sa faute. Voilà, je suis humaine, j'ai des émotions et je les exprime en ce moment. Voilà, je m'excuse mais je ne peux pas faire autrement. Déjà, je veux dire, ça fait relâcher la pression à l'enfant qui, à tort, va tout le temps penser qu'il est responsable du mal-être de ses parents. Et comme je le dis aussi souvent, de laisser un enfant dans le doute, ça laisse la place à imaginer tout et n'importe quoi. Donc des situations souvent beaucoup plus graves et dramatiques qu'elles sont réellement.
Alors si c'est dans une situation où nous, on n'a pas changé notre comportement, mais que peut-être on a ce souci, comment aborder là cette fois-ci de se dire, admettons on voit qu'il y a un changement, de dire, est-ce qu'on y va directement en disant, je voudrais qu'on parle, je vois qu'en ce moment, tu as changé de comportement,
c'est de lui dire,
on y va comme ça
je m'inquiète pour toi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en ce moment? On sait très bien que certains enfants ont la difficulté de parler, de s'exprimer. Dire voilà ce que je ressens. À être factuel peut-être sur certains comportements, sur certains mots qu'il a pu poser. Dire voilà, maintenant je m'inquiète. Et ben si ça ne change pas, ben faudra peut-être qu'on réfléchisse à trouver une solution.
Parce que comment aborder avec un enfant, mon autre question, une fois qu'on vous nous avez un petit peu orienté sur comment aborder un échange avec l'enfant sur une problématique, mais comment, admettons, si même qu'on a eu un dialogue, que tout va bien malgré tout, mais que ça va pas suffire à ce que la situation se démêle à nous seuls dans ce cercle familial, et de faire appel à un tierce. Comment aborder avec cet enfant de dire, nous avons besoin de t'emmener voir quelqu'un qui est complètement inconnu? Voilà, comment on va lui expliquer ça pour bien le faire?
De cette façon-là, de dire, écoute, on enjeu où nous n'arrivons pas à trouver de solution. Il me semble qu'on a tout essayé en tant que parents, mais que là, nous sommes dépassés. Il nous semble bon pour toi, car nous inquiétons pour toi, d'essayer d'aller voir quelqu'un et d'en discuter après, quelle que soit, on va dire, la forme de thérapie.
C'est possible qu'un enfant refuse ?
Oui.
Et comment on fait ?
Ben, tout dépend de l'âge de l'enfant. Je veux dire, si avant l'adolescence... Ouais, non, mais avant de l'adolescence, on peut dire à un enfant, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, donc tu vas venir avec moi.
On arriverait à le...
Mais quand c'est posé avec bienveillance et sincérité, vous voyez, là, on n'est pas dans le contrôle, la manipulation. C'est pour dire, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, je veux savoir ce qui ne va pas. Pardon, tout comme on emmène un enfant chez un médecin. Voilà, je veux dire, on va faire un point, t'as mal à la gorge, t'as mal au ventre. Ben voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Et c'est de mon devoir de parent, bienveillant, que d'essayer d'aller identifier ce qui se joue en ce moment. Alors bien évidemment, c'est plus facile quand j'ai avec les petits qu'avec les ados. Un ado, ben, pour le mener de force, bien sûr, qu'il y a une discussion au préalable. Et il va mieux dans ces cas-là que ça vienne aussi de l'ado et qu'il accepte la demande, bien évidemment.
Et oui, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez intervenir, vous, mettons, si on est vraiment bloqué dans la situation, on vous appelle, on vous dit, écoutez, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon adolescent, je n'arrive pas à l'emmener à vous. Vous arrivez à intervenir ?
Alors, je peux donner des clés, des outils, des façons peut-être de s'exprimer qui pourront peut-être amener l'enfant à bien vouloir venir me voir. Ou tout simplement, j'invite le parent qui m'appelle à venir poser la situation en séance, voir ce qui se joue réellement pour comprendre l'approche, essayer d'identifier ce qu'il y a et comment faire dans ce cas-là.
Mmh. En tout cas, Alice, dites-moi si on a fait le tour, mais il me semble que oui, il y a quelque chose que vous voudriez rajouter.
Non, voilà, effectivement, pour moi, comme ce que je voulais dire, c'est... Lorsqu'un enfant, on va dire, est en consultation avec un thérapeute quel qu'il soit, il y a vraiment cette notion de contrat de confiance qui est important. C'est-à-dire que tant que le lien n'est pas installé, tant que la confiance n'est pas là, on ne peut pas avoir de résultat. Parce qu'il faut savoir aussi, lorsqu'on travaille avec les enfants, c'est que les enfants ne vont pas forcément parler du problème. Au contraire, ils n'ont pas la possibilité de... tout le temps d'identifier ce qui se joue. Et comme on disait tout à l'heure, ce qui se passe à la maison est peut-être normal, donc on se dit pas qu'il y a un souci. Et il y a différentes, bien sûr, façons d'aborder des enfants. Moi, j'ai des enfants de 8-10 ans qui arrivent quand ils avaient leurs chaussures, qui se mettent sur mon canapé, qui s'allongent, qui se mettent à me parler comme des adultes. Sinon, il y a des approches qui sont différentes que moi, je mets en place. C'est ce qu'on appelle aussi la thérapie par le jeu. Il y a l'enfant qui joue soit seul, soit avec moi. Et c'est à partir de là que je fais mes observations, mes analyses, que j'établis de liens et que j'essaye de voir ce qui se joue consciemment et ou inconsciemment chez l'enfant.
Et vous ne mettez pas la pression, pour que impérativement il en ressorte quelque chose au terme de la séance, on est bien d'accord?
Tout à fait. Et ce que je dis, moi, à tous les enfants, et ce que je conseille aux parents de dire, c'est que pour un enfant d'aller voir un psychologue ou autre, c'est de ne pas le prendre comme une punition. C'est ce que je dis, moi, aux enfants lorsqu'ils sont avec mon cabinet.
Il faut que ça soit une séance qui lui soit agréable, quand même.
Oui, mais moi, ce que je leur dis, c'est pas une punition que de venir me voir, c'est un acte d'amour de tes parents ou de ton père ou de ta mère. C'est parce qu'ils s'inquiètent ou elles s'inquiètent pour toi, qu'ils souhaitent ou qu'elles souhaitent qu'on se rencontre.
D'accord. Je vois ce que vous mettez dans la tête de l'enfant, en fait. En dehors de dire qu'il y a quand même une notion agréable à faire cette séance avec vous, que ce soit pas déjà un contexte qui serait désagréable, punitif, mais de dire aussi que voilà, la démarche de ses parents, c'est de la bienveillance, en quelque sorte.
C'est ça que je veux faire comprendre et je fais en sorte que cet instant soit, comme je dis, un moment où, soit un espace où l'enfant peut déposer ce qu'il a déposé, justement sans jugement, en sachant que tout ce qu'il me dit, ce qui est vrai, reste entre lui et moi. Lorsque je dois intervenir auprès des parents, j'en parle à l'enfant, dire voilà ce qui me semble juste de dire aux parents.
Et
là, c'est lorsqu'il y a des dangers ou qu'il y a des
sûr.
Voilà.
Et que vous pouvez pas garder ça
entre l'enfant. Mais autrement, j'en parle à l'enfant. Je dis, est-ce que ça, tu veux que j'en parle à papa ou maman? S'il me dit non, je respecte le contrat. Et je demande aussi aux parents de respecter, parce que bien évidemment, vous imaginez le nombre de parents qui m'appellent, me disent alors qu'est-ce qui s'est passé. Je dis soit on se rappelle ultérieurement, parce que moi je fais pas partie de ces thérapeutes qui pensent que l'enfant puisse tout entendre et tout savoir. C'est pas vrai. Oui, il doit connaître la vérité, mais il y a des points précis de notre vie intime qui ne le regardent pas. Donc ça aussi, ça peut être difficile pour les parents entendre. C'est lorsqu'ils me confient.
Ce fameux jardin secret, on n'a pas envie.
Mais quelque part, ça apprend aussi à lâcher prise, à accepter que notre enfant est un sujet à part entière, qui ne nous appartient pas.
C'est dur, Alice, comme raisonnement pour un parent. On aime tellement tout savoir par bienveillance, par amour. On voudrait tellement tout savoir, pas pour ne pas avoir de secret, mais de se dire, est-ce que tout ce qu'il vous a dit n'a pas à un moment donné une importance? Et il faut qu'on le sache impérativement. C'est surtout ça, mais bon. Après, il faut accepter, je pense, et que l'essentiel, c'est l'objectif de ces séances et de, on va dire, démêler toute cette impasse d'arriver au terme d'une situation qui sera bénéfique pour tous, pour la famille, et que au bout de tout ça, ben, pas la problématique, je sais que vous aimez pas ce mot, mais comment on pourrait le dire, que la finalité soit le bien-être de cet enfant-là et que tout redevienne normal, on peut dire.
Alors, c'est pas forcément que tout redevienne normal, c'est qu'il comprenne. Quelquefois, c'est l'enfant qui a à comprendre la situation qu'il vit, ou quelquefois, vous savez, c'est finalement les parents que je suis en thérapie et pas les enfants. Donc, il y a ça aussi, le message que je veux faire passer, c'est quelquefois l'enfant est symptôme et révélateur de ce qui joue dans le couple.
Et c'est ce que je dis aux...
Non, mais ça fait aussi partie du domaine. Il y a certains parents qui ont des difficultés ou à se remettre en question ou à voir ce qui se joue.
Et que ça se traduit à travers l'enfant.
C'est ça, et que je leur dis, si l'environnement ne change pas, on ne peut pas avoir forcément de résultats sur l'enfant. L'enfant peut venir décharger, déposer ce qu'il a à dire, voilà,
avec un tiers neutre. Ça se joue notamment de quoi ? Dans les divorces, tout ça, à peu près, souvent ?
Pas que,
ou des fois dans des situations de vie de couple, mais qui sont avec beaucoup d'altercations entre les parents et que l'enfant vit
mal. Si, même après, il y a des situations de maladie, il y a des parents qui ont des maladies incurables, donc ils peuvent mourir, dont ils meurent, vous voyez, tout est...
Ouais, il y a vraiment beaucoup de situations qui font que... Alice, encore une fois, une belle introduction sur la psychothérapie des enfants. Ce n'est pas... négatif, ce n'est pas une tare, mentale, de faire appel à un tiers, s'il ne faut pas...
C'est ça. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est pas parce qu'on consulte peut-être une fois en étant enfant que notre enfant consultera toute sa vie. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr.
C'est pas du tout une fatalité, et c'est à l'instant, si un problème est réglé, osons aller le régler, le problème, et passons à autre chose.
Mais là, la preuve, Baptiste n'a pas eu besoin de vous pendant quelques temps. Là, il ferait peut-être appel à vous pour une autre problématique qui n'a plus rien à voir. Mais bon, de l'âge de 8 ans à l'âge de 12 ans, il n'a pas vécu avec Alice au quotidien ou chaque année régulièrement. Donc non, on est bien d'accord. Donc n'ayez pas peur. Parfois, l'intervention d'un tiers dans beaucoup de situations de vie peut être un bienfait pour vous et pour le bien-être de votre famille, et continuer à vivre paisiblement tout en avançant. Ce n'est pas un défaut de faire appel à un tiers, notamment à un professionnel tel qu'Alice. Alice, on vous retrouve toujours à votre cabinet, sagement, on poussera la porte. Mais d'abord, le téléphone.
Alors, mon numéro est le 06 48 72 79 97. Et vous retrouvez aussi toute mon actualité sur ma page Facebook, Alice Lecomte Psychanalyste.
Alors, je rappelle également que Alice est quelqu'un de très humain, ça fait en même temps partie de son métier, mais malgré tout, j'ai beaucoup vu Alice donner des conseils par téléphone. Elle ne fait pas une séance par téléphone, on est bien d'accord, mais que si vous avez une problématique et que vous doutez du bien fondé de l'intervention d'Alice ou d'un tiers, Alice est là justement pour vous orienter, vous dire oui ou non, et peut-être c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, et ça je vous l'ai vu faire, donc je le rappelle, vous n'êtes pas là pour dire oui, prenez une consultation avec moi, on n'est pas du tout, non, mais elle est débordée, voilà. C'est pour ça qu'elle rigole, parce qu'elle m'a fait le signe, je suis débordée, j'ai pas besoin de faire ça. Mais bon, voilà. Alice, je vous remercie mille fois au nom de toute l'équipe de Diva FM d'avoir fait encore une fois une très belle émission avec nous. On se donne rendez-vous toujours au même endroit, même heure, 17h, 18h, avec l'émission Alice et vous, et votre sourire et votre sympathie, et votre bienveillance surtout.
Merci beaucoup Jennifer, une bonne semaine et à bientôt.
Et à bientôt, merci Alice.
Au revoir.